Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
La répression de l'infraction de corruption en droit congolais. Nous en parlons dans votre magazine de promotion de vos droits et devoirs. Comparable à l'adultère qui se passe en catimini, la corruption a ses méthodes que seuls les magistrats savent dénicher. Et nous les recevons dans ce magazine pour faire le point des enquêtes qu'ils diligentent sur les allégations de corruption dénoncées lors des élections sénatoriales au mois de mars dernier. Ces élections ont confirmé la montée en puissance des candidats du FCC, Front commun pour le Congo, plateforme électorale dont Joseph Kabila est l'autorité morale. Elles ont aussi confirmé le quasi-anéantissement des candidats de l'UDPS, battus à plate couture et dont les militants sont montés au créneau. On a assisté à des accusations croisées qui ont permis au parquet général près la Cour de cassation d'ouvrir des enquêtes sur ces allégations après instruction du chef de l'État. Quelle évaluation faire de ces enquêtes? Qui a corrompu qui? Comment administrer la preuve de corruption en droit congolais? Quelle en est la conséquence? Droit et citoyenneté essayent de cerner la problématique de corruption avec les techniciens du droit, deux hauts magistrats et un expert électoral. Ce magazine est réalisé et présenté par Jeff Ngoyi Mulonda sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele. Bienvenue à tous. La répression de corruption en droit congolais, nous en parlons dans votre magazine de promotion de vos droits et devoirs. Et pour commencer, nous recevons l'avocat général près la Cour de cassation. Jacques Méli Méli parle des enquêtes judiciaires en cours.
Au nom de monsieur le procureur général près la Cour de cassation, monsieur Flori Kabange Numbi, il faut dire que la loi permet au ministère public d'agir soit sur plainte, soit sur dénonciation. En effet, le ministère public exerce son action publique sur base des plaintes ou des dénonciations de toute personne. Dans les cas sous examen, le parquet général près la Cour de cassation a été saisi par des plaintes qui lui avaient été adressées, notamment par le professeur Luzolo, connu comme conseiller à l'époque spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption. Et cette plainte avait été attribuée à la police judiciaire pour enquête. Depuis, il y a aussi des allégations de la corruption lors du scrutin de sénateur qui avait été dénoncé. Et comme vous le savez, dès qu'un fait infractionnel est dénoncé, le ministère public déclenche l'exercice de l'action publique pour constater l'infraction, identifier les auteurs, les co-auteurs, les complices, réunir les éléments de preuve à charge ou à décharge. Et c'est à l'issue de cette procédure-là que les conclusions seront tirées.
Vous confirmez que les auditions ont déjà commencé?
Et je confirme déjà dans certains parquets généraux de notre pays, les éditions ont commencé, mais d'ores et déjà, monsieur le procureur général de la Cour de cassation, monsieur Flori Kabange Numbi, a déjà décidé de déployer une équipe de hauts magistrats pour aller superviser tous les procureurs généraux qui sont en train d'enquêter et d'instruire sur tous ces dossiers relatifs aux actes de corruption dénoncés.
Et ça se passe comment? Vous interrogez qui? Et
c'est là que je vous dis, le ministère public, quand il exerce l'action publique, il descend sur le terrain d'abord pour constater l'infraction, identifier les auteurs et les co-auteurs ou les complices, et c'est là sur base des dénonciateurs. Les dénonciateurs vont nous permettre de connaître qui a fait quoi, et c'est sur base de cela que les enquêtes sont en train d'être menées.
Les présumés corrupteurs et corrompus, vous les convoquez dans vos offices pour les entendre, c'est ça?
C'est le travail que les hauts magistrats sont appelés à faire sur le terrain, mais aussi en collaboration avec les différents procureurs généraux. C'est tout le travail que nous sommes en train de faire.
Et ce travail peut prendre combien de temps?
Bon, comme vous le savez très bien, c'est une question qui alerte l'opinion publique. C'est une question qui touche à la clameur publique et donc la célérité sera démise. La répression sera rapide mais aussi certaine.
Vous avez dit une question qui touche à la clameur publique, mais pourquoi ne pas vous saisir immédiatement au lieu d'attendre d'être instruit? Vous avez aussi la possibilité, le pouvoir de vous saisir immédiatement d'une infraction flagrante.
Nous n'avons pas été instruits. Le ministère public instruit le dossier sur base des dénonciations. Il y a eu des dénonciations et ce sont ces dénonciations-là que nous sommes en train de vérifier avant de déclencher une procédure quelconque.
Mais lorsque vous apprenez qu'il y a quelqu'un à Kananga, avant les élections des sénateurs, avec des mal d'argent, commence à recevoir des députés provinciaux un à un, les gens ont crié au scandale, des candidats sénateurs qui ont même retiré leur candidature, se sont retirés puisqu'ils ont vu que c'était flagrant. Pourquoi ne pas vous saisir de telles flagrances immédiatement que d'attendre?
Je vous disais que la procédure pénale s'exerce, certes, avec célérité, mais elle doit se faire de manière certaine. Nous devons réunir les éléments de preuve de manière précise, de manière à faire condamner les véritables coupables et non pas les innocents parce que nous avons agi dans la précipitation. Voilà pourquoi ces instructions ont été ouvertes conformément à la loi relativement à la procédure pénale afin de vérifier tous ces faits, d'en identifier les auteurs, les corteurs, les complices, de réunir les éléments de preuve à charge ou même à décharge. Parce qu'il peut y avoir des gens qui ont été dénoncés innocemment et de ne poursuivre que des véritables coupables conformément aux lois de notre pays.
On peut déjà assister à quelques arrestations d'ici là?
Nous vous disons que c'est le travail qui est en train d'être fait au niveau de parquets généraux et le moment venu, la presse sera au courant des résultats de nos investigations.
Après l'avocat général, près la Cour de cassation, on écoute à présent les accusations croisées sur les allégations de corruption suivies des réactions. Premier à monter au créneau, Jean-Marc Kabound, président intérimaire de l'UDPS, qui répond aux questions de Paul Matendo.
D'une manière générale, la situation est catastrophique, je dirais même désastreuse. Non seulement pour l'UDPS, qui en réalité a fait une mauvaise figure, mais aussi pour l'ensemble de notre classe politique et même pour toute la nation, dont l'élection des sénateurs s'est fait sur fond d'une corruption à grande échelle. Nous avons pu déceler plusieurs anomalies et qui, à notre point de vue, ne pouvaient qu'aboutir à des élections très controversées et même chaotiques, dans la mesure où nous nous sommes finalement rendus compte que les élections organisées au niveau des assemblées provinciales ont été organisées en violation de la Constitution qui prévoit que les assemblées provinciales devraient déposer plutôt les règlements intérieurs à la Cour constitutionnelle pour validation. Donc vous allez constater que les règlements intérieurs n'ont pas obtenu l'avis favorable par rapport à notre Constitution. Eh bien, les élections ont été organisées en violation de cette dernière, donc de la Constitution.
Vous dites que votre parti a affiché de mauvaises figures. Que s'est-il passé exactement?
Nous avons tout simplement constaté que nos députés provinciaux, l'essentiellement de l'UDPS, ont trahi le parti. C'est un acte de haute trahison, dans la mesure où, quand on est membre d'un parti politique, on observe scrupuleusement, et de surcroît quand on est député, on observe scrupuleusement les consignes et les directives que la direction politique du parti donne. Ce que nous avons fait, nous en tant que dirigeants du parti, nous avons donné des instructions claires à nos députés provinciaux et nous estimons que ces derniers devaient agir conséquemment. Par contre, ils ont agi contrairement à ce que nous avons décidé, raison pour laquelle vous avez constaté le désarroi qu'a démontré notre base, parce que notre base a exprimé sa déception. Cela étant, la direction politique a décidé de prendre des mesures, non seulement qui concernent nos députés, mais pour tous les députés des partis politiques et même pour l'avenir de ces pays.
Quelles sont ces mesures?
Parmi ces mesures, nous avons exigé que ces élections soient annulées parce que ce n'est pas normal que ces élections s'organisent sur fond de la violation de notre Constitution. Et de deux, en ce qui concerne nos députés, en début de la semaine qui commence, le parti va déposer des plaintes contre des députés nommément cités, ceux qui ont été soupçonnés de corruption auprès de procureurs, près les parquets généraux, plus précisément ici à Kinshasa. Nous avons 9 députés que nous allons ester en justice. En Bujimaï, nous avons 6 députés et à Kananga, environ 5 députés aussi à Kananga. Nous allons saisir la justice pour corruption.
Est-ce que vous avez des preuves?
Nous détenons des preuves. Nous estimons que la justice pourra aller plus loin dans des enquêtes. Et ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est la condamnation de ces députés pour corruption, afin que ça serve d'exemple à d'autres députés et à l'ensemble de la classe politique. Au moins, nous aurons prouvé à la face du monde que l'UDPS ne permettra jamais à ce que la corruption puisse être institutionnalisée dans ces pays et qu'aucune institution ne peut être battue sur la corruption.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et Citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30, tous les jeudis à 13h30.
Nous sommes toujours ensemble sur la fréquence de la paix. Nous parlons de la répression de corruption en droit congolais. Après les accusations du patron de l'UDPS, suivons à présent quelques réactions. D'abord, celle du député provincial de Kinshasa, Gérard Moulumba.
D'abord, j'encourage la démarche que le président de la République va mener incessamment, qu'on va arrêter les corrupteurs et les corrompus. Mais je ne sais pas si les députés ont été corrompus. Je ne suis pas à la place de tout le monde. Mais moi, je parle de moi. J'ai été abordé par plusieurs candidats. J'ai parlé avec des candidats, mais aucun qui m'a donné de l'argent. S'il y a un seul candidat qui m'a donné de l'argent, qui va en justice, qui me porte plainte, je lui rembourserai son argent et j'assumerai les sorts qui seraient à ma personne. Ici, moi, je parle de la députation provinciale et de la corruption. Je ne peux pas contredire mon chef, qui est d'abord mon chef du parti, et les chefs de l'État.
Est-ce que l'UDPS n'a pas échoué sur toutes les lignes et c'est la fin même du parti?
Non, la fin, je dirais non. Parce que ce n'est pas la fin de choses ou la fin de procédures électorales. N'est-ce pas qu'en français, on dit c'est la fin qui justifie les moyens? On n'est pas encore à la fin. On va changer de fusil d'épaule. On va se mettre ensemble pour se ressourcer, prendre encore de l'énergie pour aller de l'avant. Mais si je dirais non, ça sera avec force que je vais dire ce n'est pas la fin du parti, du grand parti UDPS.
Mais, Jekoko Mulumba, vous avez été battu à plate couture partout aux élections législatives nationales, aux élections sénatoriales, aux élections provinciales. Toutes les présidences des assemblées provinciales sont raflées par le FCC. Qu'est-ce qui justifie cette chute de l'UDPS?
Non, le problème a commencé aux élections provinciales et aux élections nationales. Parce que si vous n'avez pas beaucoup de députés provinciaux, vous n'allez pas espérer avoir des postes du bureau. Si vous n'avez pas beaucoup de députés provinciaux, vous n'allez pas espérer avoir des sénateurs qui vont siéger pour le compte du parti. Je ne dis pas que le parti n'a pas de députés provinciaux, non plus de députés nationaux, les partis en a, ok? Mais le problème, c'est on n'est pas nombreux, nous ne sommes pas majoritaires en fait. On a fait ce qu'on a pu faire, ça n'a pas été, c'est comme je venais de dire tout à l'heure, que nous devons changer d'effigie, d'épaule. Je finirai par dire, j'ai voté pour mon candidat du parti, j'ai respecté la consigne donnée par le parti, parce qu'avant 30 minutes du vote, j'ai appelé M. Jacquemin Chabani. À la veille des élections, le matin avant de voter, j'ai appelé, parce que c'est lui qui est chargé des affaires électorales du parti. Je l'ai appelé, il m'a donné la consigne du parti, j'ai toutes les preuves, il m'a dit il faut voter. Moi je crois même qu'il était encore candidat, il m'a dit qu'il avait démissionné là dans la soirée et il n'était plus candidat. Il m'a dit il faut voter pour les candidats du parti. Chose dite et c'était la chose faite. Je ne me reproche de rien.
Ce phénomène de corruption qui gangrène la vie politique et tout le monde parle de la moralisation de cette vie politique. Et selon vous, quelle est la meilleure façon d'endiguer cette corruption?
La meilleure façon pour éradiquer cette, je dirais, sévérisme, c'est la poursuite, c'est la justice. La justice est là pour traquer ces gens-là.
Mais sans preuve, s'il n'y a pas de preuve.
Non, je ne parle pas que de la corruption de cette fois-ci, je parle de la corruption qui...
D'une manière générale.
D'une manière générale, merci. Donc, la corruption n'a pas commencé aujourd'hui, mais ça doit arrêter, ça doit diminuer sensiblement. Ce n'est que la justice qui est mieux placée pour traquer ces gens-là, les corrupteurs et les corrompus, pour éradiquer ces fléaux.
Qui a corrompu qui? S'interroge le député UDPS RDP de Kananga. Kabengele Kalengai dénonce la chasse aux sorcières dont il est victime.
Dans une clandestinité pour chasser par nos combattants de l'UDPS. Je ne sais pas pourquoi ils me reprochent, mais comme la population n'a pas encore compris, nous avons une plateforme, on l'appelle RDT, qui a vu le jour il y a que 6 mois. Et cette plateforme a 5 députés. Parmi ces 5 députés, ils ont élu leur autorité morale qu'avec 2 voix. Et les 3 voix, on ne sait pas qui sont élus. Alors, dans ce cas-là, je me pose la question, c'est l'autorité morale qui est corrompue ou bien ce sont les grands électeurs qui ont été corrompus? Alors, c'est toujours le même genre qui incite la population à nous piller. Je perdis 4 résidences, moi-même, pour chasser jusqu'au dernier retranchement pour me couper la tête. Mes enfants sont éparpillés. Notre parti a affiché un silence coupable. Il n'intervient pas. Alors, je demande s'ils ont oublié que nous avons déjà les pouvoirs et que nous ne pouvons pas nous comporter de la sorte. Mais les actes de vandalisme qui sont en train de poser n'arrangent pas la plupart des populations.
Reportage sur les allégations de corruption des députés provinciaux de Bukavu. Emmanuel Elamenjoua Kabedi nous rapporte la déclaration de la dynamique de la nouvelle société civile congolaise à ce sujet.
Ce communiqué publié hier à Bukavu est en rapport avec le processus électoral en cours. La nouvelle dynamique de la société civile encourage la justice à poursuivre les enquêtes sur les députés électeurs et leurs différents candidats sénateurs et gouverneurs de province. Aussi, punir de manière exemplaire tous ceux qui se seraient livrés à cette pratique honteuse. Jean Chrysostome Kidiana, président national de la NDC, en appelle ainsi à tout citoyen qui détiendrait des preuves de corruption à faire preuve de civisme en les dénonçant auprès des instances judiciaires compétentes. Au nombre de réformes proposées, la NDC souhaite le suffrage direct pour les élections des sénateurs et des gouverneurs de province et dans l'extrême, la suppression pure et simple du Sénat qui paraît, selon la NDC, un organe budgétivore de trop. Enfin, cette campagne vise à interdire le cumul électoral. Kidiana dit attendre la participation massive de toutes les forces vives à cette campagne visant la réforme de certaines dispositions de la Constitution et de la loi électorale qui sont, selon lui, de nature à encourager la corruption. Emmanuel Elamejwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
À Matadi, province du Congo central, une autre société civile encourage le travail que fait actuellement la justice pour sévir contre ces fléaux.
Nous, membres de la société civile du Congo central, souhaitons les échanges au niveau interne qui doivent nous aider à se parler en face et souhaitons maintenant voir à la tête de notre province un gouverneur choisi sur base d'un profil et des programmes de développement durable. Un gouverneur autonome, indépendant, non redevable aux politiciens et aux partis et regroupements politiques de leur obédience, mais plutôt redevable à la population du Congo central. Par la restauration d'un état de droit, par la lutte contre toute forme d'antivaleur, un gouverneur qui doit unir les trois districts, le Kaya, Cataracte et Bas-Fleuve. Nous félicitons M. le procureur général de la République, lequel a ouvert une enquête judiciaire à l'endroit de certains députés provinciaux qu'on soupçonne d'avoir cédé à la corruption lors des élections des sénateurs. Et lui demandons de bien mener les investigations pour préserver les innocents et identifier les véritables corrompus et corrupteurs.
Vous êtes au centre de toutes les questions. Ils sont la solution possible à vos problèmes. Radio Okapi réfléchit avec vous sur la solution. En direct, avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs. Parlez, nous transmettons. Proposez, nous discutons. Parole aux auditeurs, de lundi à vendredi dès 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
Droit et citoyenneté se poursuit autour de la problématique des répressions de l'infraction de corruption en droit congolais. Et nous recevons maintenant notre deuxième invité, le procureur général près la cour d'appel de la Gombe. Pascal Mukonkole évalue avec nous les investigations en cours et les obstacles rencontrés.
Après avoir reçu des instructions de la part de Monsieur le procureur général près la cour de cassation, tous les procureurs généraux près les cours d'appel ont ouvert des enquêtes au niveau de leur office respectif et au moment où nous parlons, les investigations sont en cours. Ils sont en train de mener des enquêtes. À ce stade, nous ne pouvons pas vous communiquer un résultat quelconque. Et c'est à l'issue de ces enquêtes que certainement l'opinion sera fixée.
Les enquêtes sont en cours. On ne vous demande pas de communiquer les résultats, mais on peut avoir une idée sur le rapport que le parquet général près la Cour de cassation vient de déposer au bureau du président de la République concernant ces enquêtes.
Mais justement, je vous ai dit qu'il s'agit d'un rapport intérimaire qui a été déposé parce qu'il était question d'évaluer, n'est-ce pas, le niveau de ces enquêtes. Il y a des personnes qui ont eu à dénoncer les faits de corruption qui sont invitées pour éclairer la religion de la justice. Et je sais qu'il y a certaines personnes, dont le député provincial, qui sont invitées mais qui ne veulent pas répondre à l'invitation de magistrats instructeurs. Et pourtant, ils sont invités comme renseignants, tout simplement pour fournir des informations qu'ils détiennent par rapport au déroulement des élections sénatoriales. Et là, ils se réfugient derrière les humilités. Ils parlent des humilités dont ils sont bénéficiaires. Et nous voulons ici, d'emblée, déjà signaler que à l'état actuel de la procédure, ils ne sont pas appelés comme des accusés, mais tout simplement comme des renseignants. Nous savons très bien la loi qui protège tout parlementaire. Nous savons que pour qu'il soit poursuivi, détenu ou arrêté, il faut absolument que les immunités soient levées. Mais ici, ces députés provinciaux qui sont invités par le magistrat instructeur sont tout simplement invités en leur qualité de renseignants. Donc, ils n'ont pas à refuser à répondre, ils doivent répondre pour collaborer avec la justice.
Est-ce que vous leur dites cela?
Justement, c'est une occasion que vous me donnez de m'adresser à ces députés provinciaux qui ne veulent pas répondre aux invitations comme renseignants. Et nous demandons même au président des assemblées provinciales de les encourager à collaborer avec la justice de leur pays. Ils ne sont pas accusés.
Et depuis que vous avez ouvert ces enquêtes, rencontrez-vous quelques difficultés?
Justement, c'est là une des difficultés. Lorsque les députés provinciaux qui détiennent certaines informations sont invités par le magistrat, ils refusent de comparaître. C'est déjà un obstacle. Ils font obstruction à la justice. Et ce n'est pas une bonne chose. Tout citoyen congolais est appelé à collaborer avec la justice de son pays, à porter la lumière à la justice. C'est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans notre pays. Quand ils refusent, sans motif valable, cela constitue déjà un obstacle, une obstruction à la justice. Et vous savez, l'officier du ministère public, de par la loi, quand nous nous référons aux dispositions de l'article 16 du Code des procédures pénales chez nous, cet article, dans son alinéa premier, dispose que l'officier du ministère public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nécessaire, peu importe son rang social.
Et que prévoit la loi en pareille circonstance lorsque quelqu'un fait obstruction à l'enquête du parquet?
Eh bien oui, vous savez, la loi prévoit en son article 19 du Code des procédures pénales que les témoins qui, sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne comparaissent pas, bien que cités régulièrement, ou qui refusent de prêter serment ou de déposer quand il en a l'obligation, peut, sans autre formalité, ni délai et sans appel, être condamné par l'officier du ministère public à une peine de servitude pénale et au paiement d'une amende. Et dans ce cas, on se retrouve en face d'un témoin défaillant. Il peut être condamné, comme dit la loi. Ici, la loi est claire. C'est l'officier du ministère public. C'est l'unique cas où l'officier du ministère public peut condamner un témoin défaillant à une peine de servitude pénale.
Est-ce que c'est une infraction lorsque le député refuse de répondre à une invitation lui adressée par le parquet,
nous
par la justice?
Il fait obstruction à l'action de la justice.
Et en définitive, qu'est-ce qui sera fait?
Nous sommes en train de sensibiliser. C'est une occasion que vous me donnez, justement, pour m'adresser à tous nos députés provinciaux qui sont appelés à collaborer avec la justice, de le faire. Et je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à refuser d'aller apporter la lumière à la justice.
Nonobstant cette difficulté, les enquêtes se poursuivent sans embâche.
Et je crois que Monsieur le procureur général après la cour de cassation a réuni tous les procureurs généraux après le cour d'appel de pays pour obtenir même l'état des procédures dans les différents dossiers qui ont été ouverts en rapport avec le fait de corruption.
Monsieur le procureur général, nous savons que la CENI a fixé au 10 avril prochain la tenue des élections de gouverneurs de province, le Sénat installé. Tout cela ne constitue pas un obstacle à vos enquêtes que vous menez?
Non, ça ne constitue pas. Les enquêtes se poursuivent normalement.
Mais ces enquêtes risquent d'être élastiques. Vous avez promis la célérité.
Oui, c'est-à-dire nous sommes en train de mener des enquêtes dans toute l'égalité, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas bâcler les enquêtes.
Quelle stratégie pour endiguer ce phénomène? Maître Sylvain Loumou est un expert électoral et directeur de l'Institut Alternative pour la gouvernance démocratique. Il pense qu'il s'y est de repenser le système électoral congolais.
Vous nous trouvez ici au siège de la Commission d'intégrité et médiation électorale pour réfléchir autour d'une question qui est d'actualité dans notre pays. La CIME avec l'Institut ont pris les choses à bras le corps pour parler de comment prévenir, mais surtout lutter contre la corruption et la fraude électorale dans notre pays, au moment opportun où que c'est maintenant qu'il faudrait envisager les réformes électorales, mais surtout comment prendre en compte l'expérience vécue pour les élections du 30 décembre 2018 afin de voir dans quelle mesure les propositions qui sortiront d'ici seront constructives pour la consolidation du processus électoral et en dernière analyse du processus démocratique dans notre pays.
Maître Sylvain, moi je reprends la question, comment lutter contre cette corruption électorale? Quelles sont vos stratégies?
Les stratégies c'était d'abord d'identifier des cas de fraude possibles à travers les différentes opérations électorales. Et nous avons pris l'approche du cycle, c'est-à-dire dans la phase préélectorale, les jours de scrutin et dans la phase post-électorale, nous avons identifié des éléments susceptibles d'être victimes de fraude ou d'irrégularité et nous avons justement défini des mécanismes de surveillance électorale ou d'observation électorale, la possibilité de dénoncer des faits et gestes de fraude et de corruption, la mobilisation des citoyens au autour de ces éléments et de la société civile pour que ceux qui ne seront pas surveillés, observés par le fait de silence de la loi soient pris en compte dans la loi à venir afin que le juge soit à mesure de réprimer les actes de fraude et d'irrégularité.
Est-ce que sur le plan préventif, le système électoral en lui-même ne favorise-t-il pas cette corruption, notre système électoral?
Vous savez qu'a priori, lorsque le législateur fait des lois, il ne pense pas à ceux qui peuvent chercher à passer par les mailles de la loi. Le système tel que pensé aujourd'hui peut effectivement être mis en cause, surtout en ce qui concerne les élections indirectes. Je dis les élections de sénateurs, les élections des gouverneurs. Il se dégage une sorte de consensus autour de la réflexion de l'élargissement de l'assiette de l'électorat pour ces élections-là. Et nous allons, à la prochaine étape, se mettre d'accord sur les modalités afin justement que l'on n'ait pas la possibilité de ne rencontrer que 3 ou 4 électeurs à qui l'on peut remettre les espèces sonnantes et trébuchantes et estimer être prêt à être élu pour siéger dans des assemblées aussi prestigieuses comme le Sénat ou l'exécutif provincial qui est le gouvernorat.
Comment administrer la preuve de corruption en droit congolais? Les magistrats instructeurs ont leur méthode pour dénicher les présumés corrupteurs et corrompus. Nous revenons à notre invité principal, Jacques Méli-Méli, avocat général près la Cour de cassation, nous en parle avant de conclure.
La corruption n'est pas une nouvelle infraction, c'est une ancienne infraction et nous avons toujours poursuivi, nous avons étudié à la faculté des droits cette infraction de corruption. Je vais vous dire effectivement que la corruption se ressemble à l'infraction d'adultère. Les deux infractions ont d'ailleurs la même nature. L'adultère est une infraction qui consiste à trahir son conjoint. La corruption aussi est une infraction où le fonctionnaire trahit son conjoint, qui est l'État. C'est l'État, en réalité, qui est le conjoint de l'agent public. De la même manière que le conjoint trahit son conjoint dans l'infraction d'adultère, c'est de la même manière que l'agent public trahit son conjoint, qui est l'État. Ces deux infractions sont des infractions souterraines, c'est-à-dire les adultères se cachent pour ne pas être vus. Les corrompus, les corrupteurs se cachent aussi. C'est de la façon où nous identifions les adultères, c'est dans les manières que nous identifions aussi les auteurs de l'infraction de la corruption.
De quelle façon?
Nous ne pouvons pas vous le dire pour ne pas permettre aux auteurs de prendre déjà les dispositions.
Que peuvent en être les conséquences s'il arrivait qu'en tout cas les faits sont avérés, vous arrivez à établir les faits de corruption, indice de culpabilité.
Si nous avons des éléments suffisants à charge, des éléments certains à charge, nous allons poursuivre les auteurs, les co-auteurs et les complices de cette infraction. Et au cas où la juridiction compétente sera amenée à condamner le prévenu, il appartiendra à la Commission nationale indépendante de tirer toutes les conséquences des droits par rapport à ces différentes condamnations.
Est-ce que vous disposez de tous les moyens matériels et humains pour mener à bien vos enquêtes?
Effectivement, les moyens humains, nous les avons. Nous avons 26 parquets généraux par rapport à nos 26 provinces. Et les procureurs généraux sont déjà en train de faire le travail. Ces procureurs généraux seront appuyés techniquement et avec l'expérience voulue des magistrats que M. le procureur général de la Cour de cassation a désigné pour aller superviser ces enquêtes. Sur le plan matériel, comme vous le savez, le parquet général de la Cour de cassation est une institution qui a sa dotation budgétaire. C'est sur base de cette dotation budgétaire que nos hauts magistrats vont se déployer sur le terrain pour faire leur travail à toute indépendance.
Pour conclure, tous les espoirs de la moralisation de la vie politique restent suspendus sur le parquet général près la Cour de cassation comme étant maître de l'action publique. Comment ressentez-vous tous ces poids qui reposent sur vous en ce moment-ci dans le cadre de la répression des corruptions?
Nous les sentons conformément à nos obligations constitutionnelles. En effet, l'article 63 de la Constitution dispose que tout citoyen congolais a le devoir sacré de défendre la République. C'est dans ce sens que nous travaillons pour défendre notre République.
Est-ce que vous avez un dernier mot, un message?
Oui, le dernier mot, c'est d'appeler la population à collaborer avec la justice en amenant le moyen de preuve à charge pour permettre à la justice d'élucider cette problématique.
C'est par ici que nous mettons un point final à votre émission de promotion de vos droits et devoirs. Droits et citoyenneté s'est penché sur la répression de l'infraction de corruption en droit congolais avec les techniciens du droit qui rassurent quant à la répression effective de cette problématique. On attend donc le résultat de leurs enquêtes, mais ils en appellent à la collaboration de tous pour élucider cette question. Merci de nous avoir suivis et de rester toujours branchés sous la fréquence de la paix.